Tumulte, le magazine de l'information et des musiques nouvelles de Radio PFM. Dans 30 minutes, nous recevrons Laurent Cordonnier, économiste et enseignant à l'université Lille 1, et Philippe Ledoussal, professeur de philosophie. Il sera question avec eux de compétitivité, un thème d'actualité économique et de la guerre de tous contre tous, thème qui marquera le premier épisode d'un cycle consacré à Jean-Jacques Rousseau. Mais d'ici là, 30 minutes de musique tumultueuse. C'est le contenu de ce tumulte numéro 1125. Jean au micro, salut. Extrait du nouvel album de Godspeed You Black Emperor, qui nous ont donné un magnifique concert la semaine dernière, samedi dernier, à la Condition Publique, un concert organisé par le Grand Mix. Donc extrait de leur dernier album, Alléluia, Don't Bend Ascent. Thank you. Voilà, c'était le groupe Godspeed You, Black Emperor. Et pour rester dans la même famille Constellation, on va écouter The Silvermoon Zion Memorial Orchestra, groupe qui sera au Grand Mix encore le 19 novembre. Et à signaler aussi qu'il y aura dans ce concert la présence de Matana Roberts, qu'on a déjà écouté et qu'on réécoutera dans la semaine prochaine, je pense, dans Tumult. Silvermoon Zion Memorial Orchestra, donc extrait de leur dernier album paru, Collapse Traditionnels.
We'll be right back.
Silvermoon Zion le 19 novembre au Grand Mix à Tourcoing. Magazine Tumulte sur Radio PFM 99.9, libre et sans pub. Le journal de Tumulte. Nous recevons Laurent Cordonnier, économiste et enseignant à l'Université Lille 1, et Philippe Ledoussal, professeur de philosophie. Il va être question avec eux de compétitivité, un thème d'actualité économique, et de la guerre de tous contre tous, thème qui marquera le premier épisode d'un feuilleton Jean-Jacques Rousseau. Pour commencer, Laurent, la compétitivité, donc un thème qui est en plein dans l'actualité. On l'avait décidé il y a bien longtemps déjà, et on savait que c'était l'actualité du moment de toute manière. Et on va parler dans un second temps des mesures choisies par le gouvernement intitulées pacte de compétitivité pour l'économie française, je crois que c'est comme ça qu'on...
De croissance, pacte de compétivité et d'emploi pour l'économie française.
D'accord. Et on en parlera dans un deuxième temps. On va commencer plutôt par cette notion de base qui prête à discussion, compétitivité. Laurent.
Oui, parce que, tu as raison, on n'a pas souvent le droit à un petit rappel qui essaie de mettre les choses un petit peu au propre et au clair. Alors, de quoi on parle quand on parle de la compétitivité? Alors d'abord, on parle de la compétitivité soit des entreprises, soit de leurs produits. Mais en réalité, c'est plus exactement de la compétitivité de leurs produits, c'est-à-dire la capacité qu'ont les produits d'une entreprise, en particulier, à soutenir la concurrence des autres entreprises. Alors, on va le dire dans un instant, mais il y a, en gros, on distingue généralement deux grands éléments de cette capacité à soutenir la concurrence des produits fabriqués par les autres. Il y a le prix, qui est un argument déterminant dans la concurrence avec les autres, le prix du produit. Et puis, il y a les éléments de ce qu'on appelle la compétitivité hors prix. C'est-à-dire, on peut toujours partager le monde en deux, ça tombe sous le sens. Il y a des facteurs de la compétitivité qui ne dépendent pas du prix. Mais peut-être avant d'aborder ça, dire encore quelque chose de la définition générale. La compétitivité d'un produit, donc, c'est sa capacité à soutenir la concurrence avec des entreprises qui fabriquent des produits à peu près ressemblants ou similaires ou substituables. Voilà. Et quand on parle de la compétitivité d'un pays, en réalité, on parle de la compétitivité de ses entreprises, de l'ensemble de ses entreprises, c'est-à-dire de leur capacité à toutes ces entreprises nationales ou résidentes sur le territoire national à soutenir la compétition ou la concurrence avec les entreprises des autres pays et des entreprises qui fabriquent potentiellement le même type de produit, à peu de choses près. Alors, le diagnostic est fait, suivant lequel la France a un problème de compétitivité puisque sa balance commerciale se dégrade de manière assez sensible depuis une dizaine d'années. Alors, on ne va peut-être pas être trop long pour le moment sur ce diagnostic pour essayer d'éclairer les facteurs de la compétitivité.
Juste un mot, Laurent, est-ce que ce diagnostic est contesté ou pas?
Non, il est incontestable, qu'il est un déficit du commerce extérieur. Ça c'est incontestable. Ensuite, à quoi l'imputer? À quel type, que veut dire la perte de compétitivité de l'économie française ou sa difficulté à exporter ces produits? Ça c'est beaucoup plus controversé, et donc il faudrait peut-être prendre un peu le temps d'en causer, mais ça va venir forcément dans ce qu'on va raconter. Donc il y a deux éléments de la compétitivité. Votre produit ou les produits nationaux soutiennent la concurrence avec le reste du monde à condition que leur prix soit dans la ligne, voire soit même un peu meilleur que ceux des concurrents. Ça, c'est la situation idéale. Et puis, il y a les éléments de la compétitivité hors prix. Alors, je traite le premier parce que c'est quand même le principal. Quels sont donc les facteurs qui font que les prix de vos produits sont au niveau de la concurrence internationale, voire même meilleurs? Ce qui fait que vos prix sont meilleurs ou pas, ce sont les déterminants du prix d'un produit. Bon. Et qu'est-ce qui fait le prix d'un produit? Essentiellement trois choses. C'est le niveau du salaire horaire moyen des ouvriers qui fabriquent ce produit. La fiche de paye, monétaire, combien on rémunère en moyenne une heure de travail en France, en comparaison de ce qu'on rémunère par exemple en Allemagne, en Chine ou aux États-Unis. Premier élément, donc, le coût horaire du travail. Deuxième élément extrêmement important, la productivité du travail. Pourquoi ? Parce qu'en une heure de travail, à prix du travail égal, en une heure du travail, on peut fabriquer plus ou moins de produits. Et plus on est productif en une heure de travail, moins le produit coûtera cher pour un salaire horaire donné. Bon. Et puis troisième élément, la marge qui est fixée par l'entreprise, ou qu'elle arrive à défendre, le taux de marge qu'elle arrive à mettre sur ce coût de fabrication. Ce coût de fabrication du produit, c'est le salaire horaire divisé par la productivité du travail. Je prends un exemple. Si en une heure de travail, vous produisez 5 pizzas et que vous êtes rémunéré 10 euros de l'heure, le coût de la pizza en production, c'est 2 euros. Bon, c'est bien le salaire horaire, 10 euros, divisé par le nombre de pizzas, la productivité, divisé par 5. Donc ce sont les deux déterminants fondamentaux, coût horaire du travail, productivité, qui détermine le coût d'une unité de produit, la pizza, sur lequel ensuite l'entrepreneur fixe une marge. Et la marge étant censée défrayer l'amortissement des machines, défrayer les taux d'intérêt payés aux prêteurs de l'entreprise, éventuellement verser des dividendes et conserver une partie pour l'autofinancement des nouveaux projets d'investissement.
Juste une précision, Laurent, quand tu parles de coût horaire du salaire, c'est charges comprises ?
Oui, c'est charges comprises. C'est toutes charges comprises.
Toutes charges comprises, absolument... qu'elles soient salariales ou patronales. Oui, c'est la même chose, en fait.
Économiquement, ça n'a pas de sens de distinguer les unes et les autres.
Hein. D'accord. Bon.
Donc, il y a vraiment trois facteurs, et si on comprend bien comment ils fonctionnent, plus la productivité horaire dans un pays ou dans une entreprise sera élevée, plus le coût de fabrication d'un produit sera faible, et même en lui rajoutant une marge, plus son prix sera faible. Donc plus la productivité est forte, plus le produit est compétitif. Question prix. A l'inverse, plus le salaire est élevé, ça fonctionne dans l'autre sens, plus le salaire horaire est élevé, et plus le coût de fabrication unitaire du produit sera élevé, et plus son prix sera élevé, et donc moins le produit sera compétitif. C'est incontestable. Bon. Et puis, troisième élément, plus la marge mise sur le coût unitaire de fabrication sera élevée, plus le produit sera cher et moins il sera compétitif. Donc il y a vraiment trois éléments, et il n'y en a pas d'autres. Hein. Bon, on peut chicaner, mais les autres, c'est vraiment des chicanes. Il n'y en a pas d'autres. Il y a trois éléments qui déterminent le prix du produit, et on pourrait dire le prix relatif du produit par rapport aux concurrents. Donc, si on a des problèmes de compétitivité prix, ils sont soit là, soit là, soit là. Hein ? Alors, pour l'instant, on ne parle pas du diagnostic. On fait la leçon. Bon. Et puis, à côté de ces éléments qui concourent à constituer le prix du produit, il y a les éléments de compétitivité qu'on qualifie de hors prix ou hors coût. Bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, souvent, on cite trois arguments. On dit, oui, mais bon, indépendamment du prix, vos produits seront désirés ou achetés plutôt que ceux des concurrents, soit parce qu'ils sont de meilleure qualité, bon. Soit parce qu'ils introduisent davantage d'innovation, soit parce qu'ils sont mieux positionnés en gamme. Alors je vais reprendre ces trois éléments, mais alors, là on rentre un peu dans la cuisine un peu sale des économistes, parce que tout ne tombe pas au carré, là, c'est beaucoup moins carré et moins juste que ce qu'on a dit juste au-dessus. Mais donc trois arguments qui font que on pourrait dire toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire à prix égal, des produits pourraient malgré tout être plus ou moins compétitifs, qualité, innovation et positionnement en gamme. Alors qualité, par exemple, on nous dit souvent, bon, bah, la qualité des produits français est moins bonne que celle des produits allemands. Et si on se fait tailler des croupières, ce n'est pas à cause du fait que le salaire horaire est trop élevé, c'est à cause de la qualité française. Alors, on pourrait dire que ce discours pourrait avoir un fond de vérité, étant donné qu'effectivement, au niveau du coût salarial horaire, on est à peu près au niveau de l'Allemagne. Mais vraiment, il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre le coût salarial horaire dans l'industrie française et le coût salarial horaire dans l'industrie allemande. Bon. Et peut-être même qu'en productivité, on est un petit peu meilleur que les Allemands, c'est-à-dire en nombre d'unités produites par heure de travail. Ce qui fait que notre coût de fabrication est peut-être inférieur à celui des Allemands. Mais donc on nous dit, bon ben voilà, mais en dépit de ça, si on a des problèmes de commerce extérieur, c'est parce que la qualité est moins bonne. Je comprends ce que ça veut dire, mais en même temps, j'en crois pas un mot. Je pense que quand les Français fabriquent quelque chose, c'est relativement de qualité. Et quand ils fabriquent une Twingo, c'est une Twingo de qualité. Simplement, ce qu'on veut peut-être dire par là, c'est qu'ils ne fabriquent pas des BMW. Et qu'aujourd'hui, c'est les BMW qui sont demandés, et ce n'est pas les Twingo. Bon. Et donc, on confond le problème de la qualité avec le problème de positionnement gamme. J'y reviendrai, puisque c'est le troisième argument. Bon. Je veux bien admettre que dans certains pays, la qualité puisse faire défaut. Je ne crois pas trop que la qualité soit un problème des produits français. Je pense que quand on fabrique des produits, c'est plutôt bien fait, bien pensé. Alors, il y a peut-être des différences sur la prestation commerciale, la prestation après-vente, le crédit, etc. Mais bon, j'ai l'impression que le fossé n'est quand même pas abyssal. Mais voilà, c'est un des arguments qui est parfois avancé. Deuxièmement, l'innovation. On dit que les Allemands innovent beaucoup plus et introduisent plus rapidement les nouveautés dans leurs produits, alors que les Français n'innovent pas, ont tendance à avoir des produits qui se banalisent. Je crois que c'est assez juste, mais quand on dit ça, je crois qu'on est déjà basculé du côté du positionnement en gamme et de la stratégie globale des entreprises. Parce qu'en gros, ça veut dire que si vous n'introduisez pas les innovations, c'est que vous n'êtes pas en train de fabriquer les produits qui sont demandés aujourd'hui et qui seront encore plus demandés demain, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait le bon choix de positionnement stratégique concernant ce qu'il faut fabriquer. Et donc, ce que vous avez, ce n'est pas un problème de prix, ni un problème de productivité, ni même peut-être un problème d'innovation en tant que tel. C'est que vous n'avez pas déterminé correctement le type de produit que vous voulez fabriquer et qui nécessairement intègre un certain nombre d'innovations en fonction des nécessités pour satisfaire la demande. Donc, je crois que le véritable élément de la compétitivité hors coût, quand on n'est pas des salopards, qu'on ne fait pas de la mauvaise qualité, c'est les choix stratégiques qui sont faits pour sentir l'évolution de la demande et fabriquer les produits qui sont sur la ligne de taille des secteurs en croissance et non pas sur la ligne de taille des secteurs en décroissance. Et je crois, en ayant lu beaucoup de choses sur ces problèmes de compétitivité française, que là est vraiment le problème de la France. C'est-à-dire qu'à l'inverse de l'Allemagne, enfin, s'il y a un problème de compétitivité, à l'inverse de l'Allemagne, les choix stratégiques qui ont été faits par les grandes entreprises françaises ne se sont pas révélés depuis 5 ou 10 ans, très pertinents, et en particulier ne sont pas situés sur les segments de la demande mondiale qui sont en forte augmentation. Un exemple, hein, mais on peut sans doute en accumuler d'autres. Pendant que BMW, Audi et Volkswagen fabriquent des bagnoles de haut de gamme pour la classe moyenne très supérieure des pays émergents, eh bien nos constructeurs nationaux sont spécialisés sur des segments de gamme qui sont plutôt de la classe moyenne inférieure, pour aller vite. Et donc, ils ne sont pas sur les segments porteurs en forte croissance de la demande. Et on peut multiplier un certain nombre d'exemples d'erreurs stratégiques, par exemple des constructeurs de transport en commun et de trains comme Alstom, qui ont développé le TGV, mais la demande mondiale de TGV est en réalité très faible parce que les conditions de rentabilité d'une telle infrastructure et d'un tel équipement, bah, ça va bien à peu près pour un pays comme la France, mais ça ne va pas du tout pour un pays comme la Chine, ça ne va pas du tout pour un pays comme les États-Unis. Et donc, bien qu'on ne fasse pas des produits de mauvaise qualité et même des produits qui sont technologiquement hyper performants, il y a des erreurs stratégiques sur est-ce que ce produit peut être demandé. Et à l'inverse, quand les choix stratégiques ont été bons, comme sur Airbus par exemple, les produits fabriqués en France sont très très compétitifs. Et on taille même des croupières à Boeing, etc. Donc je crois que le fond du problème, s'il y a un problème de compétitivité, se trouve là dans les choix stratégiques qui ont été faits par les entrepreneurs français sur l'évolution de leurs produits. Et une des preuves peut-être les plus intéressantes de ça, c'est que tous les économistes économètres qui essaient de modéliser l'évolution des exportations et des importations françaises avaient des équations de prix, de compétitivité prix, qui fonctionnaient très bien autrefois. Et elles fonctionnaient très bien jusqu'aux années 2000. Et à partir des années 2000, avec les mêmes équations, vous ne pouvez plus du tout prévoir l'évolution du commerce français, ni même allemand. Donc il s'est passé quelque chose à partir des années 2000 qui n'a plus rien à voir avec les prix relatifs ou les coûts relatifs. Et donc il faut effectivement chercher du côté des éléments hors coût de la compétitivité. Et parmi ces éléments, il me semble que le plus intéressant, c'est celui qu'on a indiqué.
Alors tu disais dans tes raisonnements, s'il y a un problème de compétitivité, alors tu disais c'est incontestable, la balance commerciale française s'est dégradée. Et, autrement dit, la France a perdu des parts de marché. Alors évidemment, on peut toujours discuter, est-ce que la compétition elle-même est justifiée hein.
Oui.
Est-ce que la France a perdu ses parts de marché vis-à-vis de l'Allemagne, puisque tu citais de l'Allemagne, d'autres pays d'Europe, ou c'est vis-à-vis par exemple de la Chine, d'autres pays?
Un peu partout. Elle a perdu des parts de marché en Europe, alors que l'Allemagne en gagnait, et elle a perdu des parts de marché à l'international, en dehors de l'Europe, alors que l'Allemagne s'est, je crois, maintenue globalement dans ses parts de marché mondiales.
Donc, ouais, si... parce que quand, excuse-moi, oui. Laurent, mais quand, dans ce jeu, dans cette compétition, quand on gagne une part de marché, on la
quelqu'un c'est forcément la perd, au détriment d'un autre.
Et si on la perd, c'est quelqu'un qui l'a...
Oui, l'ensemble des parts de marché fait 100%.
Forcément un perdant et forcément un gagnant.
Oui, tout à fait. Quand on raisonne en parts, forcément, il y a toujours un perdant et un gagnant. Quand on raisonne en volume, comme le commerce mondial est en croissance, tout le monde peut connaître une croissance de ses exportations et tout le monde peut connaître une croissance de ses importations. Hein. Mais quand on raisonne en parts, évidemment, puisqu'on ramène la taille du gâteau à 1, forcément, c'est une question de partage et d'épuisement du partage. Mmh. Alors, tu as raison de dire s'il y a un problème de compétitivité. Alors, je le redis, parce que c'est vrai, la pédagogie, c'est enfoncer des clous. S'il y a un problème de compétitivité, il me semble qu'il se trouve essentiellement là, dans la question du positionnement en gamme et des choix entrepreneuriaux et stratégiques des entreprises françaises. Mais la dégradation du commerce extérieur français n'est pas nécessairement liée, et uniquement liée, et peut-être loin de là, à des problèmes de compétitivité. Il est, pour une part, une grande part liée à des problèmes de formation de la demande globale en Europe. C'est quelque chose qui n'effleure même pas l'esprit d'un grand nombre de nos économistes. Il n'y a eu qu'un seul rapport de la Banque de France qui a fait allusion à ces questions. Il vient de sortir, là, il y a quelques jours. Et puis d'autres économistes comme Vincent Duviquet, par exemple, et Mazier en France ont étudié ces questions-là avant même la Banque de France. Et ils ont fait comprendre que les composantes de la demande globale en Europe évoluent de manière très différente. Pendant que nos salaires en France continuaient à augmenter à peu près au rythme de l'inflation, 2% par an, en Allemagne se mettait en place depuis une dizaine d'années une rigueur salariale draconienne qui fait que les salaires n'évoluaient plus du tout. Donc, la demande des salariés allemands adressée au reste du monde, mais pour une grande part à l'Europe, croît moins vite que la demande des salariés français adressée aux produits européens. Et ça expliquerait, d'après la Banque de France, entre 50 et 60% du creusement des déficits du commerce extérieur. Donc, en gros, les différences de vitesse, de croissance, des pouvoirs d'achat d'un pays européen à un autre, puisque nous avons la même monnaie, explique la création de déséquilibres commerciaux. Quand vos salaires augmentent plus vite que les autres, ce n'est pas principalement un effet compétitivité-coût qui va jouer, c'est un effet demande. Vous allez être plus demandeur des produits des autres, des vôtres aussi bien sûr, mais des autres également. et vous allez l'être davantage que la réciprocité. Et ça, c'est un élément absolument crucial du creusement des déséquilibres internes à l'Europe. Tous les pays qui ont pratiqué de la rigueur salariale ont connu une montée des excédents commerciaux, et tous les pays qui n'ont pas pratiqué cette rigueur salariale, et de ce côté-là, la France n'a pas du tout été dérapée. Hein. Les salaires français ont cru parfaitement en ligne avec les objectifs d'inflation très orthodoxes de M. Trichet et de M. Draghi. Donc de ce point de vue-là, on est plutôt des bons élèves au sens de l'orthodoxie économique. Et bien, tous les pays qui sont restés dans la ligne, ou au contraire, qui pour certains étaient au-dessus de ce taux de croissance, ont connu un creusement de leur déficit du commerce extérieur. Autrefois, ça se purgeait comment ? Par des dévaluations. Et donc, l'avantage, on se rend compte maintenant que l'avantage des dévaluations, c'était pas de rétablir la compétitivité prix, c'était de rétablir les parités de pouvoir d'achat en sorte que vous n'ayez plus la capacité d'acheter les produits étrangers et que les étrangers aient une capacité relative accrue à acheter les vôtres. Voilà. Donc les effets demande, on dirait peut-être de manière plus techno, les effets revenus et demande sont cruciaux et ont joué de manière beaucoup plus importante que les effets prix dans ces histoires. Et évidemment, depuis qu'on a l'euro, nous n'avons plus les moyens de purger ces déséquilibres par des dévaluations.
Et avec une situation en Europe où c'est la compétition et il n'y a pas de régulation qui fasse qu'il y ait un salaire minimum commun, ce genre de choses. C'est ça le problème, non, en fait ?
Absolument aucune régulation. Parce que pour en sortir par le haut, au risque de se répéter, parce qu'on l'a dit plusieurs fois à ce micro, mais pour en sortir par le haut, il faudrait qu'on puisse discuter en Europe des rythmes d'évolution des salaires monétaires dans l'ensemble des pays européens. Et en particulier, que ces rythmes de salaire soient concertés en lien avec l'objectif d'inflation qu'on veut tenir en Europe. Bon. Et ensuite, qu'ils soient différenciés suivant les déficits de compétitivité acquis depuis 10 ans et qui n'ont pas été purgés. Donc il faudrait qu'on se mette d'accord pour que les salaires augmentent plus vite en Allemagne qu'en France, qu'ils augmentent plus vite en France qu'en Espagne, plus vite en Espagne qu'en Grèce, etc. Donc on est très loin de ce genre de discussion coopérative. Mais encore une fois, ce serait la seule manière de purger ces déséquilibres par le haut. Il y en a une autre, c'est de les purger par le bas. C'est de dire à la France, vous avez un problème de compétitivité.
De coût du travail.
De coût du travail, comme on lui dit, baissez vos salaires. Et quand on l'aura fait, il y a un autre pays qui aura un problème de compétitivité.
Il faudra encore les baisser.
Il faudra qu'il les baisse. Alors, il pourrait me dire, c'est rien. Si les prix baissent en même temps, c'est pas grave. Si les prix, c'est une marche sur les salaires, baissons nos salaires, les prix baisseront. Problème, même si ça se passait aussi bien que ça, les dettes augmenteraient. Parce que nos dettes, à nous, elles sont contractualisées en euros. Et donc, si nos salaires baissaient de 10%, avec les prix de nos produits qui baissent de 10%, nos dettes, elles n'auraient pas baissé de 10%. Donc, en valeur, et en pression et en poids, elles augmenteraient. Donc, là, théoriquement, la solution par la baisse des prix et des salaires, prix pays par pays, elle fonctionne, et de manière non coopérative. Mais c'est vraiment que de la théorie. Parce que l'alourdissement du poids des dettes, qui est quand même le problème principal aujourd'hui, lui viendrait encore accroître le fardeau. Donc il n'y a pas de sortie par le bas, en fait, pour ces deux raisons-là. Mais on est très loin d'envisager les moyens de la sortie par le haut.
Alors pour terminer, on va dire un mot des mesures gouvernementales, donc le pacte de croissance et de compétitivité. Alors comment résumer les mesures choisies par le gouvernement ? Plutôt que d'une baisse massive des cotisations sociales des entreprises, le gouvernement fait le choix de faire un crédit d'impôt, ce qui revient...
C'est une baisse d'impôt.
C'est une baisse d'impôt.
C'est une baisse d'impôt.
Après coup.
Après coup.
Ouais. Et en fonction de la masse salariale.
Donc en fonction du niveau de la masse salariale de l'entreprise.
Donc du nombre de...
Du nombre de salariés et du niveau de leur salaire.
Voilà.
Bon. Et on n'a que 3 minutes, Jean.
Ouais, 20 milliards donc qui sont payés par des hausses de TVA.
La moitié par des hausses de TVA et l'autre moitié par une baisse des dépenses publiques.
Voilà.
Voilà.
Alors vas-y.
Ça, c'est quand même le centre de la mesure. Il y a 35 mesures qui sont pour la plupart issues du rapport Gallois, qui vient d'être remis d'ailleurs. En tout, il y a 35 mesures, mais la mesure phare, c'est celle-là. Et effectivement, cette mesure, elle est différente de ce qu'avait proposé le rapport Gallois, qui préconisait un transfert des charges sociales patronales vers la CSG pour baisser le coût du travail par la baisse des charges sociales. En 3 minutes, quand j'ai entendu la mesure du gouvernement, je suis tombé de ma chaise.
C'est... Vraiment ?
Vraiment. Vraiment. C'est impensable. C'est complètement impensable. Je ne sais pas où ils ont été chercher ce truc-là. La question, c'est même pas que c'est de gauche ou pas de gauche. C'est sûr que c'est pas de gauche.
C'est gauche.
Mais alors voilà, c'est carrément gauche.
Ou
même pour un type de droite, ce serait gauche. Bon. Je ne vois pas quel lien on peut faire entre la baisse de l'impôt sur les sociétés et le coût du travail. Et à supposer même que le coût du travail soit le problème, parce qu'on vient d'en discuter là pendant une demi-heure. Bon. On est très loin. Une réponse affirmative à cette question. Donc, quelle est la relation entre l'impôt sur les sociétés, sur les bénéfices des sociétés, son niveau et le coût du travail? Personnellement, je ne vois pas. J'ai fait quelques études d'économie dans ma vie, je ne vois pas.
Ça restaure les marges, non? C'est pas l'histoire, cette histoire-là?
Alors, là, ce serait, voilà, effectivement, le seul espoir. Si ces baisses d'impôts étaient utilisées pour baisser les marges, et donc diminuer le prix des produits, on restaurerait de la compétitivité prix. Ou alors, si ces baisses d'impôts étaient utilisées pour faire de l'innovation, améliorer le positionnement en gamme, réviser la stratégie à long terme des entreprises, peut-être ça restaurerait la compétitivité. Donc voilà, c'est le seul canal par lequel ça peut passer. Peut-être qu'ils ont pensé à ça. Mais enfin, là, il faut vraiment prier très fort. Parce que dès que j'ai entendu ça, je me suis dit, tiens, je vais aller rechercher mes chiffres habituels de la Banque de France sur les comptes des entreprises et je vais regarder comment s'est répartie la richesse créée par les entreprises sur les 15 dernières années et comment ça a évolué. Quelle est la part qui va aux impôts et à l'État? Quelle est la part qui va pour payer les intérêts aux prêteurs? Quelle est la part qui va pour payer les dividendes aux actionnaires? Quelle est la part qui va aux salariés? Quand même, ils repartent avec une partie de la richesse des entreprises, ne l'oublions pas. Et quelle est la part qui reste dans l'entreprise pour l'autofinancement de l'investissement? 5 parts. La part de l'entreprise, la part de l'État, la part des prêteurs, la part des actionnaires et la part des salariés. La part des salariés, depuis 15 ans, elle est très stable. Très basse, mais très stable. Elle n'a pas bougé. La part des prêteurs, elle a fait du yo-yo, mais en gros, en moyenne, elle n'a pas bougé. Donc la part des salariés fixe, la part des prêteurs globalement fixe, la part de l'entreprise... Tout petit peu diminué, mais vraiment pas beaucoup. Tout petit peu diminué. Qu'est-ce qui s'est passé? La part de la ponction de l'État, des impôts, elle a diminué de 4 points. 4 points, c'est gigantesque. Elle est passée de 14% à moins de 11%. 10,5%. Donc, ça fait 15 ans qu'on réduit l'impôt sur le bénéfice des sociétés, sur les sociétés. Est-ce que vous croyez que ça a créé un choc de compétitivité? Non, visiblement, puisqu'apparemment, c'est le problème qu'on aurait. Donc les impôts ont déjà baissé massivement sur les sociétés. Ils ont été réduits d'un tiers, quasiment. Et quelle est la part qui a augmenté en contrepartie? Celle des actionnaires. Voilà. C'est les deux lignes qui bougent. Il n'y a que ces deux lignes-là qui bougent. Et la part des actionnaires, elle a augmenté de 6 points. Donc elle a pris 4 points de baisse d'impôts et 2 points sur le revenu de l'entreprise. La part qui est conservée pour l'autofinancement de l'entreprise. Bon. Donc c'est ça qu'on veut faire? On veut augmenter la TVA de l'ensemble de nos concitoyens. On veut les faire renoncer à 10 milliards de services publics gratuits. Donc leur faire payer d'une certaine manière 20 milliards pour que ça se retrouve dans la poche des actionnaires. Là, il y a vraiment de quoi se frapper la tête contre les murs. Vraiment de quoi se frapper la tête contre les murs. J'espère que j'ai rien compris.
Thank you.
le quartet de Alexander Balanescu qui interprétait Kraftwerk. Magazine Tumult sur Radio PFM 99.9, toujours libre et sans pub. On va passer de la compétition et à la compétitivité à la guerre de tous contre tous avec Philippe. Un match, une compétition entre Jean-Jacques Rousseau et Hobbes.
Oui.
Et ceci marquera le premier épisode d'un feuilleton Jean-Jacques Rousseau, hein, Philippe ?
D'un feuilleton que j'espère compétitif, je ne sais pas. Hein. Mais oui, donc oui, je pensais à partir de cette... puisqu'on vient de parler là, de la compétition, de cet univers de la compétition permanente, quoi, ou qui est posé comme quelque chose qu'on ne devrait pas discuter, ou de quelque chose de quasiment... inévitable, etc. Bon. Alors là, je voudrais partir donc de cette question qu'on retrouve donc dans la pensée, ou plus exactement la critique de cette notion de guerre de tous contre tous, qu'on retrouve dans la pensée de Rousseau, et notamment dans un texte qu'il a pu écrire, au XVIIIe siècle, sur l'origine de l'inégalité, hein, son fameux discours sur l'origine de l'inégalité. Alors, Rousseau, donc, dans ce discours, en fait, il va s'en prendre justement à la question de l'homme, de l'état de nature. Bon. Alors, peut-être qu'il faut, resituer un peu ces termes de débat. C'est-à-dire qu'à partir de la pensée moderne, quoi, du XVIIe siècle, etc., Hobbes étant le fondateur un peu de ça, au XVIIe siècle, eh bien, on pose la question de la société, de la légitimité du pouvoir et des autorités qui existent et des inégalités qui peuvent exister dans la société, on la pose en général en faisant le détour dans l'école donc, du droit naturel, ce qu'on appelle l'école du droit naturel, par l'idée par la description d'un état de nature. Bon. Alors, cette description d'un état de nature, il faut bien comprendre que la plupart du temps, elle ne correspond pas à une réalité, parce qu'on a parfois des idées que l'état de nature, ce serait une espèce de mythe, ou Rousseau, par exemple, se serait imaginé que les hommes vivaient vraiment comme ça, etc. Bon, en fait, on est dans une espèce de fiction de droit. C'est-à-dire qu'il s'agit de poser les questions de comment l'homme serait à l'état de nature, et finalement, comment la société devrait être en fonction ou par rapport à cet état de nature. En tout cas, c'est comme ça, traditionnellement, que la question était posée. Bon. Et donc, Rousseau, quand il répond à cette question qui était posée donc, sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, il va revenir sur cette question de l'homme naturel, de l'état de nature, et notamment critiquer Hobbes. Et il va revenir sur cette question pour essayer de montrer que la manière dont elle a été posée jusqu'à lui n'était pas satisfaisante et qu'en réalité, on n'a jamais vraiment connu ou décrit l'homme naturel. Hein. Bon. Donc, au fond, ça repose sur cette idée qu'il va falloir enfin faire la véritable description de l'homme naturel. Alors, que vise Rousseau ? Rousseau, il vise au fond une chose assez simple, comparer l'homme de la nature d'une part, d'un côté, et l'homme de l'homme, c'est-à-dire l'homme social, de l'autre. Et au fond, son but, c'est de dire que finalement, on s'en prend toujours à la nature, on fait comme s'il y avait toute une série de choses qui étaient liées à la nature de l'homme, hein, à l'état naturel de l'homme, et qu'en réalité, ces causes sont sociales. Bon. Et notamment, cette question de la guerre de tous contre tous, etc. Bon. Alors, si on revient donc sur les théoriciens du droit naturel, dont Hobbes, hein, au fond, leur idée, le mode de raisonnement, c'est qu'il y a un état de nature, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a précédé la société. L'état de nature, c'est ça. C'est au fond l'homme en dehors de tout lien sociaux. Et que finalement, en tout cas de toute loi, de tout règlement, etc., alors ça a un aspect à l'époque très, on va dire, critique, parce qu'il s'agit quand même de dire qu'on va voir que, du coup, les hommes auraient d'abord été dans un état de nature et ensuite, par un contrat, fondent le lien social. Ce qui veut dire que si c'est un contrat, ce n'est pas Dieu. Hein, donc il y a quand même une dimension de critique du droit divin, du pouvoir fondé sur simplement l'autorité ou la référence divine, quoi. Et Rousseau se situe tout à fait là dans cette continuité. Bon. Mais en revanche, ce que va faire Rousseau, c'est de dire mais on n'a pas adopté la bonne méthode. Parce que jusqu'à présent, dit-il, au fond, eh bien, les philosophes ont essayé de porter dans l'état de nature la thèse qu'ils voulaient défendre. C'est-à-dire, au fond, ils naturalisent ce qu'ils conçoivent comme bon pour la société. Alors, c'est en ça que c'est assez intéressant, y compris pour les critiques qu'on peut faire aujourd'hui, etc. Donc, ils naturalisent, c'est-à-dire que, par exemple, eh bien, au fond, quelqu'un comme Locke, philosophe anglais, etc., qui, dit-il, bon, Locke pensait que la propriété, c'était, le droit de propriété, c'était naturel. Bon, hein, c'était quelque chose qui découlait, en tout cas, de l'homme naturel. Bon. Et Rousseau, bien sûr, s'opposera à ça. Bon, on peut trouver comme ça plusieurs exemples. Hein. Bon. Alors, dans l'exemple de Hobbes, qu'est-ce que ça donne? Ça donne quelque chose, le point suivant, qui est cette fameuse idée, selon Hobbes, qu'il y a une guerre, que l'état de nature déboucherait nécessairement sur une guerre permanente de tous contre tous, hein, et que du coup, il serait intenable, parce qu'il conduirait au fait que les hommes finiraient par s'entretuer. Bon. Pourquoi est-ce qu'au fond, il défendrait cette idée? Parce que Hobbes est un partisan, hein, au XVIIe siècle, Hobbes est un partisan de l'état de la monarchie, d'une part, hein, et d'un état qu'on pourrait qualifier aujourd'hui d'absolutiste, en tout cas d'autoritaire. Hein, bon. Et qu'au fond, le premier bien qu'il faut défendre en société, c'est la sécurité. La sécurité, le fait de pouvoir jouir de ses biens. Hein. Bon, ceci, il est très anglais. Hein. Il faut pouvoir jouir de ses biens, de ses possessions, de ses propriétés, pouvoir faire du commerce tranquille, tout ça. Bon. Il faut savoir là-dessus que Hobbes était un contemporain de la guerre civile en Angleterre, hein, et de la décapitation du roi, etc. Donc ça l'avait beaucoup marqué. Bon. Alors comment procède-t-il? Il dit, si on laisse les hommes à l'état de nature, s'il n'y a pas de loi, s'il n'y a pas d'état, qu'est-ce qui va se passer? Non pas que les hommes soient méchants, hein, ni qu'ils soient naturellement inégaux. Hein. Pour Hobbes, au fond, les hommes sont naturellement égaux, et ils ne sont pas particulièrement mauvais par nature. Bon. Simplement, hein, dans cet état de nature, donc je répète, qui est fictif, hein, qu'on ne rencontrera nulle part, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer que, comme justement le problème, c'est d'une part que les hommes sont égaux, et d'autre part que les biens matériels disponibles, etc., ne sont pas suffisants pour tout le monde. Hein, il y a une espèce de rareté. Bon. À partir de là, eh bien, ça va créer quoi? Ça veut dire que, d'une part, il va y avoir justement une rivalité égale, entre tous les hommes, hein, pour le fait d'obtenir une compétition, pourrait-on dire. Voilà, chacun va vouloir obtenir un certain nombre de biens, et les mêmes que son voisin. Et comme au fond, même si je suis plus faible, je peux quand même ruser et puis tuer mon ennemi, bon, au fond, on y a une espèce d'égalité, quoi. Du coup, ça produit donc premièrement la compétition pour un profit, quoi. Hein, et donc les hommes sont en guerre sur ce terrain-là. Ensuite, eh bien, ils craignent pour leur sécurité parce qu'ils savent très bien que celui d'en face pense exactement la même chose qu'eux. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils sont défiants. Hein, et la meilleure défense, quand on n'a pas de loi, pas de rien pour rien d'autre, c'est évidemment d'éliminer d'emblée son adversaire. Et alors, en plus, alors ça, c'est le plus étrange, peut-être, Hobbes suppose que les hommes sont... Non seulement ils vont se battre pour tout ça, ce qui est déjà pas mal, mais en plus qu'ils vont se battre parce qu'ils sont orgueilleux, hein, pour la gloire, par vanité, etc. Bon, donc pour rien, finalement. Donc ça veut dire que du coup, il y a, non pas, tout ça c'est pas de la méchanceté, hein, mais cet état de fait que les hommes vont être dans une guerre permanente, constamment menacés de mort violente, c'est l'égalité par la possibilité de la mort violente, hein, bon, c'est une égalité négative on va dire, et du coup, évidemment, c'est intenable, parce que quand même la première dimension de l'être humain, c'est comme de n'importe quel autre être vivant, c'est de vouloir rester en vie. Donc, Hobbes en tire la conclusion que du coup, il y a nécessairement un contrat social qui va devoir se faire, et que ce contrat social, il débouche sur un état autoritaire, ou un état, hein, on délègue en fait notre liberté, hein, notre liberté naturelle de nous battre avec les autres, d'obtenir ce dont on a besoin, on le délègue entièrement à un seul, qui est garant de notre sécurité, etc. Et la seule limitation qu'il donne à ce pouvoir qu'on donne tous en même temps, au même, alors ça peut être un seul, ça peut être un roi, ça peut être une seule assemblée, bon. Mais en tout cas c'est un pouvoir concentré, hein, et fort, on pourrait dire, hein. Eh bien la seule limitation, c'est qu'il doit nous garantir notre sécurité, hein. Et qu'évidemment, bon, si notre sécurité est en jeu, on peut quand même là se défendre à nouveau. Donc, comme, je ne sais pas moi, le fait qu'on ait le droit de porter une arme aux États-Unis, ce serait une application, en quelque sorte, de cette conception. Bon. Donc, on voit bien ici le lien entre l'état de nature et la conception que Hobbes défend de l'état de nature, et en fait, un projet de société, hein, qui est l'état sécuritaire, on pourrait dire. Enfin, bon, c'est un terme qui n'est pas adapté à Hobbes, hein, mais enfin, si on voulait le transférer dans les termes d'aujourd'hui. Donc on voit bien que le paradoxe, c'est que c'est l'égalité naturelle chez Hobbes qui finalement va faire qu'on va déboucher sur une égalité politique avec ceux qui commandent et ceux qui n'ont qu'à obéir aux lois qui sont faites pour leur bien, en quelque sorte. Hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est comment la manière dont Rousseau, lui, va procéder. Rousseau, il fait quelque chose de très étrange. Il dit, eh bien, oui, reprenons cette idée de l'état de nature, c'est-à-dire suivons ceux qui étaient là avant moi, hein, notamment Hobbes, donc qui a ouvert cette... Mais allons jusqu'au bout, parce qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'en fait, ils supposent qu'il y a des relations entre les hommes dans l'état de nature, qu'il y a des relations constantes. Parce que pour pouvoir rentrer en rivalité, pour pouvoir être blessé dans son orgueil, etc., bah, il faut des passions humaines développées et qui sont liées au rapport à l'autre. Hein. Je ne vais pas me défier de l'autre si je n'ai pas un rapport constant avec lui. Donc c'est déjà une modification qui finalement renvoie à une forme de lien social. Donc Rousseau dit, mais non, l'état de nature, en fait, il faut le porter jusqu'au bout. C'est-à-dire c'est des hommes isolés quoi, qui se rencontrent de temps en temps, ils se reproduisent, bon, et puis, mais voilà. Hein. Là encore, on est dans la fiction, bien sûr, mais c'est une fiction qui répond à une autre fiction. Et donc il dit, mais cet état de nature, en réalité, bien sûr, les hommes sont... Il y a des différences entre les hommes, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir... Différence ne fait pas inégalité, parce qu'inégalité suppose un rapport constant et une comparaison. Or, ils ne se comparent pas, ils répondent simplement à des besoins. Est-ce qu'il y a une rareté ? Ben non, il n'y en a pas, parce que déjà, les hommes à l'état naturel ont des besoins très limités. Donc, de toute manière... Bon. Et ensuite, on ne voit pas pourquoi on supposerait qu'il y ait, il y ait quelque chose qui serait rare sur les éléments premiers, et même si un homme, un endroit du monde, eh bien, il n'a pas assez, bah, il se déplace, hein, il va ailleurs, et puis voilà, quoi, de toute façon, il est attaché par rien. Et donc du coup, au fond, on voit bien cette idée qu'il ne faut pas porter dans l'état de nature des traits qui sont ceux de la société. Et qu'au fond, faire cela, c'est naturaliser des rapports sociaux. Et c'est en faire des choses qui seraient inscrites dans la nature elle-même, hein, qui serait inscrite profondément au sein de l'âme. Donc c'est ça, au fond. Hein, l'état de nature, dit Rousseau, il aurait très bien pu durer éternellement. Hein, si on l'imagine tel qu'il est vraiment, si on a une imagination rationnelle tel qu'il est vraiment, il pourrait durer éternellement. Hein, puisqu'après tout, il y a... Alors, en plus, les hommes ne sont pas portés à l'orgueil, parce que de toute façon, ils veulent conserver leur vie, mais ils n'ont pas d'amour propre. Hein, parce que l'amour propre, c'est lié à la... C'est lié au rapport à l'autre, au regard que l'autre a sur moi, etc. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, pour finir peut-être quand même, ça veut dire que l'état de guerre de tous contre tous, dit Rousseau, dans la seconde partie de son discours où il commence à analyser l'évolution des sociétés, etc., oui, il existe à un moment donné, oui, il apparaît, mais il n'est pas du tout inscrit dans l'état de nature. Il est inscrit dans un certain état de la société. Et lui, le fait naître, au fond, avec le travail, la division du travail, l'apparition de véritables inégalités entre les riches et les pauvres, et le moment hein, qui est lié alors à l'agriculture, où on commence à avoir la propriété, l'appropriation des biens, etc., une division qui se fait entre les riches et les pauvres, et le fait que les riches veulent prendre le pouvoir pour pouvoir continuer à être riches et plus en plus riches, hein, et donc établir là-dessus, là, et que les pauvres, évidemment, bah, pour se débrouiller, sont bien obligés de récupérer les biens. Donc l'état de guerre, il est bien lié à une forme d'état de la société, hein, basée sur l'inégalité et au fond la manière d'essayer de la conserver, voire de l'accroître, hein, et pas du tout à un état de nature. Et donc on voit bien que les conséquences politiques ne seront pas du tout les mêmes, hein, Rousseau étant lui-même un partisan de l'égalité politique et de la démocratie. Voilà.
Alors Laurent, une petite réaction ?
Bah bon d'abord
un bel exposé.
Ah ouais, non vraiment je buvais ses paroles et puis je suivais le fil Et donc, voilà, je suis comme un élève qui n'a pas eu le temps d'assimiler toute la leçon. Mais je me disais, je vais tout de suite à la fin, je me disais que la suite, c'est quand même, je pense à la série, c'est quand même ensuite de nous raconter comment, plus précisément, parce que là, tu as été allusif à la fin, mais c'est oui. parfaitement normal, mais comment précisément, d'après Rousseau, de cette situation égalitaire, sont nées les inégalités entre les hommes et comment effectivement ce sont bien des processus sociaux qui les créent et qui créent des positions inégales. Et je me disais aussi que très, très rapidement, parce que tu l'avais cité il n'y a pas très longtemps, tu pourrais mettre en regard justement ce que dit Rousseau à partir d'un état de nature complètement fictif, qui est une espèce d'idéal type pour philosopher, on pourrait le mettre en regard avec ce que tu disais de Pierre Clastre et de son livre sur la société contre l'État, parce que d'une certaine manière, il s'est posé la même question, mais en partant d'une situation qui n'est pas un état de nature pour philosopher, qui est déjà un état social, mais un état social dans lequel il y avait tout de même de l'égalité.
Sans État.
Alors du coup, voilà, peut-être le triangle Rousseau-Pierre Clastre avec un camp de base qui est d'un côté une fiction d'état de nature et de l'autre côté un truc qui n'est pas une fiction, qui n'est pas un état de nature, mais qui est quand même une société qui a l'air égalitaire.
Alors il y a, en fait, c'est intéressant ça parce que en fait dans les il y a ces références aux sauvages. Alors on les trouve chez Hobbes. Alors où il dit Hobbes il dit bon, l'état de nature n'existe pas, l'état de la guerre, parce que, de toute façon il peut pas exister, l'humanité se détruirait en quelque sorte. Bon, donc c'est pas possible. Mais ça apparaît. Alors il y a une tendance vers ce retour à l'état de nature en quelque sorte qu'on voit dans la guerre civile, dit-il. Et puis, alors, chez les sauvages d'Amérique. Alors, c'est une espèce de truc comme ça. Bon, les sauvages d'Amérique sont censés être des gens qui se passent leur temps à se battre entre eux parce qu'ils n'ont pas d'État, etc. Bon. Donc là, on a bien la vision. Ce qui est intéressant, c'est que Rousseau, lui, effectivement, notamment dans la seconde partie, commence à interroger l'histoire et le développement des inégalités, de l'inégalité parmi les hommes, qu'il considère comme le mal fondamental, quand même. Eh bien, lui aussi, il parle parce qu'il avait lu beaucoup les récits de voyageurs, etc. Il en parle. Hein. Et il en parle, et à un moment même, il suppose une espèce d'État qui aurait pas ce qu'était, alors peut-être qu'il correspondrait, je ne sais pas. Enfin, peut-être que Clastre avait cette idée-là en tête. Cet État idéal, quasiment, où les hommes n'étaient pas encore complètement sortis de la nature, mais n'étaient pas rentrés, justement, dans la société comme inégalité, et comme oppression, pourrait-on dire, hein, ou en tout cas où... Et donc cet état entre les deux là aurait été le moment, et donc il se nourrissait, alors un peu à l'inverse de Hobbes, de ses récits de voyage, mais en un sens plutôt positif, comme des éléments qui permettraient d'approcher de cette connaissance des premiers moments de la société et où finalement l'homme n'était pas encore corrompu par, non pas par la société en elle-même, parce que Rousseau n'est pas du tout quelqu'un qui pense qu'on doit revenir en arrière, etc., mais par des formes corrompues de la société.
Juste un mot, là, Laurent faisait l'élève tout à l'heure, mais moi il me semblait, toi, bon, évidemment j'ai relu Rousseau parce que tu m'y as incité, et moi j'avais retenu comme élève, mais même c'est ce qu'on entend là, puisqu'il y a l'anniversaire de Rousseau là, l'idée c'était, l'idée bateau, c'était l'homme est bon et naturellement bon, la société l'a rendu mauvais, mais en fait c'est une idée complètement faussement attribuée à Rousseau, puisque cette histoire de l'homme est naturellement bon, C'est purement un détour théorique fictif, quoi. Il raisonne pas comme ça.
Mais oui, d'autant plus.
C'est pas un processus, hein, qui du passage de nature à l'homme social, de l'homme naturel à l'état de nature à l'homme socialisé. C'est pas un processus qui fait que il y ait corruption par la société de cet homme né naturellement. En fait, moi j'ai eu l'impression, c'est que quand il recherche théoriquement l'homme à l'état naturel, il trouve que ça n'existe pas finalement. Ça ne peut pas exister, ça n'existe pas, et que finalement tout est social. C'est-à-dire que l'homme est immédiatement être social.
Alors, il n'est pas, dit-il, il a une formule pour ça, il dit « l'homme n'est pas social, mais il est fait pour le devenir ». Donc c'est-à-dire que l'homme naturel...
Il envisage quand même ce devenir. Oui.
Non, mais en tout cas, ce qui lui importe, je crois, c'est de dire que l'homme n'est pas... Qu'on ne peut pas... Il y a une formule qu'il employait, hein, on dit, mais on se plaint tout le temps de la... Il dit, quand il a commencé à écrire le discours sur l'origine de l'humanité, il dit, j'entends constamment des plaintes sur la nature humaine, etc., mais c'est pas sur la nature humaine qu'il faut se plaindre, c'est sur l'état de la société. Donc ce n'est pas, l'homme n'est pas mauvais, en fait. C'est ça que ça veut dire, l'homme est naturellement bon. Ça veut dire qu'il n'est pas, il ne porte pas en lui nécessairement les formes de vice et de corruption au sens de Rousseau, c'est-à-dire de malheur en réalité, hein, que la société va développer. Et quand Hobbes, justement, effectivement, Hobbes ne dit pas que l'homme est méchant, mais il dit quand même qu'il a des passions qui vont le conduire, que l'homme naturel est méchant, mais qu'il a des passions qui vont le conduire, etc. Mais ces passions sont sociales, c'est-à-dire que même l'individu, effectivement, est radicalement transformé et formé par la société, le rapport aux autres, la manière dont les rapports aux autres existent, etc. Donc c'est en ce sens-là, en fait, c'est ça le sens de la... C'est pour ça qu'il radicalise, en fait, la thèse de l'homme naturel, pour mieux, en quelque sorte, dénaturaliser les rapports sociaux. Enfin, je ne sais pas comment dire ça, mais pour mieux leur enlever une espèce de justification par « oui, mais les hommes sont naturellement comme ça ».
Il rend sociaux les rapports sociaux. Quoi.
Il historicise les rapports sociaux. Ouais. Il historicise la société. Ouais, mais il y a quand même des petites choses qui se conservent quand même. Il y a quand même, par exemple, on a la pitié, par exemple, le sentiment de pitié pour Rousseau, une espèce de racine naturelle. Enfin bon, c'est vraiment.
Et alors le fondement du contrat social et de l'État.
Ah oui, ben alors là.
Tu nous le feras.
Oui, peut-être un autre.
Non, mais parce qu'il y a du suspense quand même. Autant on a compris ce que c'était chez Hobbes, autant chez Rousseau, bon, t'en as pas dit grand-chose. Et c'est pas simple non plus, hein, chez Rousseau, le fondement finalement du contrat social. C'est pas. Ouais.
Alors, une question à l'économiste, justement, Laurent. Est-ce que ce genre de réflexion, toi, finalement, on voit bien que ça fonde quand même, cette réflexion, ça fonde un peu les choix de positionnement dans l'économie. Est-ce que ce genre de réflexion, ça fait partie du cursus universitaire, de la formation des économistes ?
Malheureusement, de moins en moins. De moins en moins, on a de moins en moins de cours d'histoire des idées. Et même des cours d'histoire des idées restreints aux idées économiques. Et donc, on n'étudie pratiquement plus, et je suppose que dans la plupart des facultés, on n'étudie plus les théoriciens du contrat social, ni même les philosophes des Lumières en général. Bon. Alors que l'économie est sortie de là, quand même. Parce que Smith... Adam Smith, c'est l'un des successeurs de Mandeville, d'une certaine manière, et il va essayer de décrire un ordre social qui pourrait n'être fait que de relations économiques. Et donc, d'une certaine façon, c'est une sorte de théoricien du contrat social qui va dire le contrat social est horizontal. Il n'a pas besoin du Léviathan de Hobbes. Nous n'avons pas besoin d'un contrat à N personnes pour renoncer à notre droit de nous faire justice nous-mêmes. Le marché, avec ses relations bilatérales et l'intérêt que chacun doit porter à soi et à sa production, suffit à produire de l'ordre. Donc c'est les économistes sortent d'une certaine façon des théories du contrat social pour dire l'espace des relations économiques produit un ordre autonome qui n'a pas besoin du Léviathan à la Hobbes. Donc on est sorti là et on y revient aujourd'hui, les théories de ce qu'on appelle le capitalisme des parties prenantes. De Freeman et de ses collègues, c'est une théorie visant à refonder l'ordre politique à partir d'entreprises qui seraient gouvernées par l'ensemble de leurs parties prenantes, les salariés, les actionnaires, les élus des territoires, les usagers, voire même les concurrents. Et c'est des gens qui disent, voilà, si l'entreprise était bien gouvernée, elle serait la base d'un nouveau contrat social horizontal entre les parties prenantes, et un contrat social qui est fait sans impliquer une autorité ou un pouvoir. Donc on est en plein dedans, hein. On a les deux pieds dedans. Simplement, la plupart des économistes ne le savent plus.
Alors inversement, Philippe, en philosophie, en lycée ou peut-être dans le cursus universitaire de philosophie, est-ce qu'on étudie les penseurs économiques, de l'économie ?
Non, pas de manière systématique en tout cas. On peut trouver des endroits où ça se fait, etc. Mais non.
Alors le lien entre le lien entre les deux, est-ce qu'il y a des gens qui ont travaillé là-dessus, Laurent ?
Oh non, mais quand même.
Ah oui, je suppose que ça existe, bien sûr.
Non, quand même, ça existe. en particulier, l'un de ceux qu'on peut citer, c'est Albert Hirschman, qui a fait un livre qui s'appelle « Les passions et les intérêts », et qui a essayé de montrer comment, en passant dans le registre d'une anthropologie de l'intérêt, c'est-à-dire l'homme étant un individu qui est capable de connaître son bonheur et de le calculer, on s'éloigne de la furie des passions. L'intérêt est quelque chose de discipliné, de rationnel, de calculatoire. Et donc, un homme intéressé est un homme globalement pacifié. Et c'est donc en quittant le domaine de la folie des passions et en investissant celui de l'intérêt qu'on a réussi à promouvoir l'idée d'un ordre économique capable d'être généré par les relations économiques.
D'accord. Bon, affaire à suivre alors.
Affaire à suivre.
Et c'est ainsi que se termine ce magazine Tumulte. Tumulte, c'est tous les mardis de 20h à 21h30, rediffusion le mercredi à 16h30 et à 23h, et bien sûr sur le net radiopfm.com. Salut et à la semaine prochaine.